Chapitre 10. Il arrivait souvent que Belloc dîna sans laisser paraître qu'il voyait Marichette à table, lui faisant vis-à-vis. Mais ce soir-là, lorsqu'ils s'assirent en face l'un de l'autre, il examina curieusement. « Qu'as-tu donc ? » lui demanda-t-il en l'enveloppant de ce regard qui la faisait toujours trembler. Elle se sentit rougir, pâlir, et dans son trouble, elle ne trouva rien à répondre. Il lisait donc en elle, il voyait donc dans ses yeux et sur son visage le rayonnement du bonheur qui la transportait. Cependant, il fallait dire quelque chose et ne pas rester sous le feu de ce regard noir. « Je vous remercie, mon cousin, je ne suis pas malade. »« Je ne te dis pas que tu es malade, je te demande ce que tu as. »« Mais rien, je ne crois pas. » Il continua à l'examiner, mais sans pousser plus loin ses questions. Cependant, elle l'entendit murmurer entre ses dents. « Tiens, tiens, tiens !» Surprise, elle s'enhardit à relever les yeux sur lui, mais le regard qu'elle rencontra la remplit de trouble et de confusion, d'embarras et de malaise, car, au lieu de l'indifférence ou de la dureté qu'elle était habituée à lire dans ce regard, elle y trouva un sourire vague et énigmatique auquel elle ne comprit rien. Pourquoi souriait-il de cette façon? Et pourquoi ce sourire, qui aurait dû être agréable et doux pour elle, la gênait-il? Tant qu'il resta à table, elle tourna et retourna ses questions sans leur trouver de réponse. Mais aussitôt qu'il se leva pour s'en aller à ses affaires, le sentiment de gêne qui l'oppressait s'effaça et elle ne pensa plus qu'à Paulin. Elle avait vraiment autre chose en tête que de chercher la signification de ce sourire ou ce qu'il cachait, son bonheur, son amour. Comme elle aurait voulu marcher librement, courir au bord de la mer, respirer le plein air, crier son ivresse. Mais depuis 8 mois, elle n'était pas sortie de cette maison et tout à coup, elle ne pouvait pas s'échapper. Elle monta à sa chambre. Là, au moins, elle serait libre. Porte close, fenêtre ouverte, elle pouvait se souvenir et rêver en face de la mer. « Il m'aime, c'est donc vrai !» Comme ces deux mots « il m'aime » ressemblaient peu au raisonnement qu'elle arrangeait pour se persuader qu'elle était aimée avant qu'il eût parlé. Comme ce qu'elle se disait alors était loin de ce qu'il avait dit. « Je vous aime !» Elle retrouvait dans son cœur la musique de sa voix, elle voyait ses yeux, elle sentait dans ses mains les étreintes de ses doigts. Était-il possible qu'un si grand bonheur fût pour elle, la malheureuse et la misérable? De ses lectures, il lui restait le souvenir des transports de joie qu'éprouvaient les femmes ou les jeunes filles qui étaient aimées. C'était même cela qui s'était gravé dans son esprit, bien plus profondément que les histoires dans lesquelles ces femmes figuraient, leurs aventures ou leurs caractères, car ce qu'il avait toujours frappé dans un livre, c'était ce qui se rapportait à l'amour. Mais combien ces transports lui paraissaient mesquins à côté des siens. C'est que ces femmes n'étaient pas seules au monde. Elles avaient des parents, des amis, l'amour n'était pas tout pour elles. Tandis que, dans son isolement, il était la vie même. Cet amant n'était pas seulement l'homme qu'il aimait et qu'elle aimait, il était plus encore père, mère, famille entière. Ce n'était pas seulement le bonheur dans le présent qu'il lui donnait, mais c'était encore une main ferme pour la guider dans l'avenir. Jusqu'à 1 heure avancée de la nuit, elle resta à sa fenêtre, les yeux perdus dans les profondeurs bleues du ciel étoilé, frissonnante, frémissante, se répétant « Il m'aime ! Il m'aime !» Le lendemain matin, elle était la première au bureau, longtemps avant l'arrivée de Paulin, l'attendant, le guettant. Il avait eu la même pensée qu'elle, car il devança son heure habituelle. Ils étaient seuls, elle put courir à lui comme il put courir à elle. « Je vous attendais. Et moi, je voulais vous attendre. Nous avons eu la même pensée. Puisque nous avons le même cœur. » Il ne lui avait tendu qu'une main. De l'autre, il portait une petite boîte ficelée. Il l'ouvrit et en tira un bouquet de violettes blanches, encore tout emperlé de la rosée de la nuit. « Si ce n'est point notre bouquet de mariage, au moins c'est celui de nos fiançailles. » Ils entendirent un bruit de pas dans le vestibule. Marichette dut se sauver en portant son bouquet qu'elle n'eut que juste le temps de cacher dans son pupitre. Paulin avait pris ses dispositions pour rester ce jour-là à la maison et ne pas quitter Marichette. Mais il avait compté sans son maître. Il n'était pas au bureau depuis 10 minutes qu'il fallut partir pour aller à 3 lieues de Saint-Maclou à pied, la journée perdue. 1 heure après Paulin, ce fut Belloc qui partit à son tour et aussitôt Victor vint rôder, tourner autour de Marichette. Plus que jamais, il était parfumé et frisé. Plus que jamais, il était tout à sa tendresse. Comme il l'aimait! Il avait une journée à lui, n'en profiterait-il pas enfin? De même qu'il avait des théories sur les parfums et sur la toilette, il en avait aussi sur les saisons. Au printemps, une femme était bien plus facilement prenable qu'à l'automne. Justement, c'était le printemps qui devait infailliblement exercer sa vertigineuse influence sur la tête de Marichette et même très probablement sur ses sens. Et, subissant lui-même cette influence, il se promenait par le bureau en poussant à de courts intervalles des soupirs déchirants. Si, en temps ordinaire, Marichette trouvait ses soupirs ridicules, ce matin-là, il exaspérait. N'était-il pas une offense pour son amour, une injure pour Paulin? Habituellement, elle paraissait ne pas les remarquer et elle continuait à travailler comme si elle ne les entendait pas. Mais dans les dispositions où elle était, il lui fut impossible de s'imposer cette réserve. Ne la laisserait-il pas tranquille? Ne pourrait-elle pas être à Paulin tout entière? Cela était intolérable et honteux. S'il avait eu des yeux pour voir, il aurait compris au regard qu'elle lui lançait de temps en temps qu'il avait mal choisi son heure. Mais c'était à lui qu'il pensait, bien plus qu'à elle, à ce qu'il avait à dire et qu'il ne disait pas. À un soupir plus fort que les autres, elle éclata. « Ce que je fais est difficile, dit-elle. J'aurais besoin de n'être pas distraite. » Il fut abasourdi. « Mais, mademoiselle, je ne vous dis rien. » « Cela me trouble de vous voir vous promener ainsi. Obligez-moi de me laisser seule. » Qu'avait-elle donc, elle toujours si discrète et si réservée? Ne le devinant pas, il se soumit. « Je vais travailler, » dit-il. Quand il fut revenu dans son bureau, au lieu de se mettre au travail, il réfléchit pour tâcher de comprendre la cause de cette humeur nerveuse et il arriva à cette conclusion que cette impatience était due à l'influence du printemps. « Elle est vexée que je ne parle pas, » se dit-il. « Quelle lâche je suis !» Et ce fut contre lui qu'il se fâcha, non contre elle. Réellement, il ne pouvait pas lui en vouloir. Mais puisque les choses étaient ainsi, il devait profiter de l'occasion qui s'offrait à lui, sous peine de ne la retrouver jamais, car c'était encore une de ses théories, que les femmes ne pardonnent pas qu'on les dédaigne, et elle pouvait croire qu'elle était dédaignée. Il ne laisserait donc pas perdre cette occasion, comme toutes celles qui s'étaient déjà présentées, et puisque malheureusement il ne pouvait point parler, il écrirait. Devant le papier blanc, sa main aurait des audaces que ses lèvres n'avaient pas devant Marichette. Il savait ce qu'il devait dire, s'il ne pouvait pas le dire. Sa lettre fut rapidement écrite. Depuis le temps qu'il s'était préparé, il n'avait pas à chercher ses mots. Mais ce n'était rien d'écrire cette lettre. Le difficile, c'était de la remettre, car il y avait là un fait direct et immédiat, tout aussi effrayant pour lui que la déclaration de vive voix. Il le supprimerait, ce fait direct, et alors le succès serait certain. Rien d'impossible à cela. En revenant de déjeuner, il entra dans le bureau de Marichette. « Voulez-vous copier cette facture, mademoiselle ? » dit-il en posant devant elle un livre de compte grand ouvert. Puis, tout de suite, il ajouta « Vous tournerez la page. » Et avant qu'elle eût levé les yeux sur lui, il disparut. Ce qu'elle devait trouver en tournant la page, c'était sa lettre qu'il avait intercalée entre 2 feuillets du livre. Sans se douter de rien, et avec son soin habituel, elle se mit à copier la facture. Ce fut seulement quand elle tourna la page qu'elle trouva la lettre dont les premiers mots lui sautèrent aux yeux. « Je vous aime, mademoiselle. » Elle n'alla pas plus loin. Vivement, elle referma le livre, indignée, pour la première fois de sa vie, furieuse. Victor, qui, du fond de son bureau, la guettait, suivant tous ses mouvements, fut stupéfait. « Comment, elle ne lit pas ?» Pendant quelques instants, il la vit réfléchir, puis tout à coup se lever, prendre le livre et se diriger vers son bureau. « Que veut-elle donc ?» se demanda-t-il. Il ne tarda pas à le savoir. « Voici un livre, dit Marichette, dans lequel vous avez oublié des papiers qui ne sont pas pour moi. » « Mais, mademoiselle, je vous prie de veiller désormais à m'éviter pareil ennui. » Ce fut le soir seulement qu'il releva la tête. Il devait justement voir ses amis ce jour-là. Allait-il paraître devant eux en vaincu ? Mieux valait mourir. Il se montra si fier et si superbe qu'ils l'applaudirent. « Alors, elle a capitulé ? Parbleu !»